C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Chaque semaine ici, nous analysons comment les mots, le langage façonnent notre réalité et influencent notre société. Je m'appelle Pauli Mouzalia et j'ai le plaisir d'être accompagné de ma collègue Karine Topé. Bonjour Karine.
Bonjour Pauli, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant, celui des influenceurs et de leur place croissante dans l'espace public numérique. Que ce soit sur Instagram, sur YouTube, TikTok ou encore sur Facebook, ils rassemblent des milliers, voire des millions de personnes autour de leur contenu.
Effectivement Karine, mais ce pouvoir qu'offrent les réseaux sociaux s'accompagne également de grandes responsabilités. Ces dernières années, nous avons assisté à des dérapages, des propos polémiques, voire carrément haineux, qui parfois échappent totalement au contrôle de leurs auteurs, au point que des influenceurs se sont retrouvés face à la justice pour des propos jugés offensants ou incitant à la violence.
Exactement, Pauli. Cette liberté de s'exprimer en ligne, bien qu'étant essentielle, n'est pas sans limite. Depuis l'année passée, un code du numérique a été mis en place dans notre pays pour définir les limites à ne pas franchir. Cependant, ce cadre légal n'est pas toujours bien connu ou compris par ceux qui s'expriment sur les plateformes digitales.
Et c'est exactement cela qui fait débat aujourd'hui. Quelle est la responsabilité des influenceurs? Comment peuvent-ils s'exprimer sur les réseaux sociaux tout en respectant la loi et les droits des autres? Ces questions se posent alors que le cyberespace s'impose de plus en plus comme un cadre privilégié d'échange et de débat. Pour répondre à ces interrogations, nous avons le plaisir de recevoir un invité. Il s'agit de Christian Moleka, politologue et initiateur de la plateforme Politoscope qui analyse la cyberviolence verbale en République démocratique du Congo. Bonjour Christian Moleka.
Bonjour Pauli, bonjour également à Karine.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre discussion, écoutons un premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette scène se déroule dans le cadre d'un milieu universitaire avec des étudiants qui tiennent absolument à s'exprimer sur les réseaux sociaux. On écoute.
C'est n'importe quoi. Oui, t'as vu ça?
Il y a quoi encore?
Mais regarde ce communiqué du comité des étudiants que je viens de trouver sur le site web de l'université.
Fais-moi voir. Mais non! Attends, mais toutes ces mesures qu'ils mettent en place sont injustes quand même. Comment Amani a eu le culot de signer un tel communiqué? Mais il nous prend pour des cons ou quoi?
Mais franchement, cette décision est un affront à toute la communauté étudiantine du campus, c'est clair ça.
Attends. Tu sais, Mbouta, il est hors des questions qu'on ferme les yeux.
Ah bon?
Oui.
Ah bon? Et tu comptes faire quoi? Ou vous comptez faire quoi?
Kitoko, rappelle-toi que nous ne sommes plus à l'époque où des décisions injustes pouvaient être prises sans être dénoncées.
Ah oui?
Mais seulement parce que nous n'avons pas de cadre d'expression.
Vous cherchez toujours des problèmes là où
tout à fait.
Pas.
Aujourd'hui, nous avons un outil extraordinaire. Les réseaux sociaux. Ce n'est plus le temps ou l'époque où pour s'exprimer, on devait aller à la radio où on était souvent victime des censures.
Écoute, Mbouta, j'ai une idée.
Dis-moi.
Je vais envoyer tout de suite une réaction dure et virulente pour montrer que nous résistons tous contre ces mesures.
C'est une belle idée. Bon, attends, pour que j'y repose aussi le commentaire. T'as fait ça?
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non mais, qu'est-ce qui vous a pris pour poster ces paroles? Qu'est-ce qui vous a pris vraiment?
Je vais publier tout de suite une réaction dure et virulente pour montrer que nous résistons contre ces mesures, déclare l'un des étudiants dans cet extrait. Christian Moleka, comment est-ce que le cadre juridique congolais, notamment le code du numérique que nous avons évoqué dans l'introduction, encadre-t-il la liberté d'expression des influenceurs sur les réseaux sociaux? Y a-t-il des limites claires à cette liberté?
Effectivement, parce que l'Internet nous offre un espace public, et comme tout espace public, il doit avoir des normes qui accadrent l'expression de l'espace public. Mmh. Nous, au Congo, nous avons reçu un espace public nouveau, mais n'avions pas des règles qui l'encadraient. Bon, on peut discuter sur la manière dont le code numérique a été, je dirais, élaboré, mmh. parce que beaucoup ont contesté l'inclusivité de la démarche, mmh. et ce qui fait également l'absence d'appropriation. Mais il a au moins le mérite de nous donner un cadre de régulation de l'espace public en érigeant notamment de super-infractions. Il y a des infractions de notre code pénal qui n'étaient pas applicables dans le cyberespace. Mmh. Et donc aujourd'hui, grâce au code numérique, nous avons des cyberinfractions qui font que lorsque vous portez atteinte par votre publication, par vos vidéos, vous pouvez être responsable des actes posés, alors qu'auparavant, nous n'avions pas cette capacité-là à limiter la production des infractions dans l'espace numérique.
Mais concrètement, comment cela se traduit dans la vraie vie? Qu'est-ce qui change par rapport à l'époque où il n'y avait pas du tout de législation en cette matière?
Mais ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité. Lorsque vous faites une fausse information, mm-hmm. une imputation dommageable en ligne, mm-hmm. eh bien, vous pouvez être mis devant le tribunal pour responsabilité. Parce que le principe général de droit dit toujours... il n'y a pas de sanctions sans loi. Mmh. Donc, tant qu'il n'y a pas une législation qui encadrait le phénomène, on ne pouvait pas sanctionner les gens faute de loi. Mmh. Aujourd'hui, le code numérique a offert ce cadre-là légal pour réprimer les cyberinfractions. Donc, désormais, il y a une responsabilité sur les actes posés en ligne. Même si, c'est vrai, beaucoup de Congolais ne connaissent pas encore le code, qu'il y a un vrai travail de vulgarisation qui doit être fait pour que les gens s'approprie cette loi-là, mais il y a au moins aujourd'hui un cadre légal de répression des infractions, de cyber-infractions.
Merci, Monsieur Christian Moleka. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un cadre légal, mais dites-nous, en tant qu'analyste de la cyber-violence verbale en RDC, pourquoi pensez-vous que certains influenceurs, malgré que ce cadre légal existe, dépassent toujours les bornes dans leur manière de s'exprimer sur Internet? Est-ce parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la loi, ou ces dérapages révèlent d'une volonté délibérée d'attirer l'attention en créant des polémiques pour avoir plus de vues?
Déjà, il y a le fait que beaucoup ignorent la loi, tout du moins ne l'ont jamais lu. On sait qu'au Congo, l'accès à l'information, c'est quelque chose de très difficile pour beaucoup. Deuxièmement, c'est le fait qu'il y a un modèle économique qui s'est construit dans les réseaux sociaux. Au-delà du fait que c'est un cadre uniquement d'expression, mais c'est aussi un modèle économique de vie pour certains, à travers notamment les bad clicks. Parce que les espaces numériques monétisent les vues, monétisent les clics, monétisent les faits qu'on poste des contenus. Et donc, il y a une dimension commerciale derrière le vidéo. Il ne s'agit pas simplement de plaisir de regarder, les gens gagnent de l'argent derrière. Et maintenant qu'il y a un intérêt économique derrière, les personnes qui ont de l'intérêt économique, parfois ne sont pas eux-mêmes dans l'autocensure, parce qu'ils veulent avoir une publication qui choque, qui attire et qui fait qu'on regarde le plus. Et les bad buzz, c'est ce fameux discours clash, polémique, qui va attirer l'attention. Même sur les contenus, parfois, on est en dehors des limites de l'acceptable. Et donc, on a à la fois ce modèle économique-là qui incite les gens à rechercher les vues, à rechercher la monétisation à travers les bad buzz. Mais on a également le fait que pendant très longtemps, l'espace n'était pas régulé et donc offrait une forme de cadre de libre accès pour tout le monde.
Merci, Monsieur Christian. Mais puisqu'on parle aujourd'hui de monétisation, c'est une source de revenus pour ces créateurs de contenu, pour ces personnes qui ont des pages et qui drainent de millions de personnes et qui vont pratiquement dans la vie privée des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? La loi, elle existe, mais parfois, pour qu'on l'applique, elle prend du temps, ou alors il faut que les juges se saisissent du dossier. Qu'est-ce que vous suggérez à ceux qui sont blessés par les propos des TikTokers, de tous ces producteurs de contenu? Comment ils doivent procéder pour au moins avoir justice dans ce cas-là?
Déjà, aujourd'hui, beaucoup de plateformes développent des mécanismes de signalement. C'est-à-dire que si vous avez subi des propos injurieux, haineux, il y a des mécanismes de signalement. Vous pouvez signaler le poste. Ça, ce sont des mécanismes développés par toutes les plateformes, que ce soit Meta ou tout le reste. Vous pouvez signaler les posts et on peut bloquer un producteur, un utilisateur qui produit le discours de contenu jugé peu conforme aux normes. Deuxièmement, vous pouvez vous-même vous saisir le tribunal. Ça veut dire que vous avez la possibilité d'enregistrer et de documenter ces propos-là injurieux et aller en justice. Donc, si vous êtes une victime, vous pouvez signaler, vous pouvez également saisir les autorités. Troisièmement, pour les personnes concernées, je crois qu'il faut un travail de sensibilisation et d'éducation. Nous ne travaillons pas assez dans l'éducation aux médias. Parce que c'est bien d'offrir aux gens des outils, mais chaque outil a un notice. Et à l'intérieur du notice, on vous montre le mode d'emploi.
Exactement.
Au Congo, nous avons l'habitude d'accéder à des outils sans saisir le mode d'emploi. Donc, il faut un travail d'éducation aux médias pour montrer aux gens qu'Internet, c'est un espace public, c'est un espace de citoyenneté et qu'il existe une e-citoyenneté. Donc, une citoyenneté numérique parce que l'espace public a des limites et ainsi de suite. Il y a un travail de citoyenneté à faire. Pas uniquement sur le numérique, mais de manière générale au Congo, on a toujours parlé de nouvelles citoyennetés. Il y a un travail de citoyenneté à faire pour que Internet soit un espace qui soit l'espace de citoyenneté.
Merci Christian Moleka pour cette analyse. Je vous propose à présent de passer au deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique pour explorer les dangers d'une expression sur les réseaux sociaux qui ne tient pas toujours compte des limites morales et légales. On écoute.
Regarde-moi ce message. Vous avez perdu la tête ou quoi, les amis? Comment pouvez-vous faire de telles réactions sur la page de l'université? Pourquoi et comment?
Mais Kitoko, tu sais que c'est justement à cause des étudiants comme toi qui préfèrent avaler leur langue au lieu de dénoncer ce qui ne va pas, qu'il y aura toujours et encore des problèmes au campus.
Je ne suis pas d'accord.
C'est à cause des gens comme toi.
Je ne suis pas d'accord
avec
vous.
Exactement. Maintenant, avec les réseaux sociaux, nous avons une arme efficace pour nous défendre contre les grands de cette société, comme les universités et les politiciens qui abusent souvent de leur pouvoir.
Ah oui, Kitoko, tu sais, je comprends que tu aurais aimé faire le travail de dialoguer avec ces étudiants qui nous dirigent, mais malheureusement, ma chérie, cette approche n'a plus de valeur.
Donc ça vous
marche. Bienvenue au 21e siècle.
Sur les réseaux sociaux, maintenant sur les réseaux sociaux, ce n'est que la confrontation et l'agression qui comptent.
Eh oui, c'est ça. Tout le monde peut s'exprimer librement,
librement,
sans demander d'autorisation à personne.
Librement, et vous pensez que tout cela vous donne le droit d'insulter les gens et d'inciter à la révolte, c'est ça?
Bon, de toutes les façons, on est libre de dire ce qu'on pense.
Exactement.
Vraiment.
Merci.
Voilà. Vraiment. Jusqu'à traiter Amani d'ennemi d'étudiants qui méritent d'être chassés de l'université.
Ah bon?
C'est ce que j'ai lu dans votre poste, non?
Mais où est le mal? Où est le mal?
C'est pas bien.
Où est le mal?
C'est pas bien.
Quelqu'un donne son point de vue de manière crue point dans une université où on dit que la liberté d'expression est garantie.
Quelle liberté?
Où est le mal?
Et vous pensez que tout cela vous donne le droit d'insulter les gens ou d'inciter à la révolte? Demande l'un des étudiants dans le sketch précédent. Christian Moleka, quels sont les risques que courent les influenceurs lorsqu'ils franchissent justement la ligne rouge sur les plateformes digitales? Peut-on vraiment dire que les influenceurs sont conscients des répercussions des propos qu'ils tiennent sur la toile?
Nous, au niveau du Politoscope, lorsqu'on a lancé le Politoscope, le tout premier numéro qu'on a réalisé, c'était « Que pensent les Congolais ?» Et nous avons essayé de démontrer que sur X notamment, ce qui mène les débats au Congo, ce qu'on appelle le gatekeeping, ce sont les médias et les influenceurs. Malheureusement, ce débat porté par les influenceurs sont des débats autour de développement personnel, questions de société, parfois leur propre commerce, ou de la mondanité, qu'il n'y a pas un débat de fond qui permet d'améliorer un peu le débat dans l'espace public. Nous avons donc des gens qui tirent les débats publics, mais qui n'offrent pas un contenu de qualité. Et donc, le vrai problème qu'on a, c'est la qualité du débat qu'apportent les influenceurs. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est uniquement parce que les aspects de peopleisation, de startification et de monétisation domine, je crois qu'il y a un travail de responsabilisation des influenceurs qu'il faudra faire pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont un rôle à jouer dans le débat public. C'est le 1. De deux, mais qu'est-ce qu'il risque? Mais il risque de se retrouver devant la justice. Mmh. Je crois qu'on a eu des cas récemment où on a senti de plus en plus. D'ailleurs, on sent dans les discours des politiques. On l'a vu avec la rentrée judiciaire récemment. Mmh. On l'a senti avec le président de la République, avec le ministre de la Justice, un accent mettre de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et donc désormais, ils sont sous les viseurs des parquets, qui sont sous le viseur de la justice, et donc très probablement on verra de plus en plus d'influenceurs aller répondre de leurs actes devant la justice. C'est une irresponsabilité. Auparavant, Internet donnait peut-être la garantie de l'anonymat ou de la déresponsabilité. Aujourd'hui, avec le code numérique, ce n'est plus le cas. C'est à eux de prendre conscience qu'ils sont justiciables et qu'ils sont tenus à mieux se comporter pour ne pas demain se retrouver devant un tribunal pour telle ou telle autre.
Malgré les derniers développements que vous avez évoqués avec ces interpellations d'influenceurs au niveau de la justice, est-ce qu'ils arrivent à prendre conscience des risques qu'ils prennent à travers les propos qu'ils émettent en ligne?
Bon, déjà, c'est difficile de parler d'eux comme une corporation parce que il n'y a pas à ce stade une forme de structure qui réunit les influenceurs. C'est une catégorisation que nous donnons, mais à des personnes très diversifiées. D'ailleurs, quand on a fait le rapport, on a eu beaucoup de critiques parce qu'on a classé les influenceurs. Certaines personnes n'ont pas apprécié ce qu'on les classe dans le rang d'influenceurs parce que pris péjorativement. Maintenant, est-ce qu'ils ont une conscience des classes, c'est discutable, mais est-ce que eux-mêmes prennent, les quelques-uns qui ont conscience, comprennent-ils que ils ont ce rôle-là? C'est difficile parce qu'au niveau du politoscope, on n'a pas fait un travail d'enquête ou d'interview pour élever leur point de vue. Mais on peut simplement constater qu'après les dernières arrestations, il y a eu un groupe de influenceurs qui ont décidé de mettre en place une forme de collectif d'influenceurs pour éduquer leurs membres ou leurs confrères ou leurs consoeurs à mieux interagir sur Internet. Le fait que eux-mêmes commencent à développer une forme de syndicat ou tout du moins de plateforme qui les réunissent, c'est dire qu'ils ont commencé à comprendre un peu les risques qu'ils ont aujourd'hui en utilisant Internet également.
Merci Monsieur Christian Moleka, mais en restant toujours sur cette lancée-là, peut-on dire aujourd'hui que les algorithmes des réseaux sociaux ont tendance à inciter les utilisateurs des réseaux sociaux à produire des contenus de plus en plus clivants, polarisants, pour toucher des audiences de plus en plus larges, au risque de violer la loi et d'être inquiétés par la justice?
C'est une question qui revient de plus en plus parce que on a comme le sentiment que la viralité et l'agressivité de la circulation de l'information est liée également au degré d'agressivité du message. Donc plus on a un message plus agressif, plus clivant, plus sa viralité prend plus de vitesse qu'un message moins clivant, moins agressif. Est-ce qu'il y a derrière manifestement un travail d'algorithme qui est fait pour mettre cela en avant? C'est un débat qui s'occupe. Pour l'instant, on n'a pas encore des certitudes de ce quant à ça, mais c'est un débat qui s'occupe.
Mais quel est votre point de vue à ce sujet? Quand on regarde le type de contenu qui sont mis en avant par les algorithmes, est-ce que c'est une manière d'inciter les gens à être de plus en plus transgressifs, de plus en plus violents, de plus en plus clivants, Monsieur Moleka?
C'est une question difficile complexe. On ne peut pas dire, peut pas se baser sur un oui ou un non. Mais on constate simplement que ceux qui mettent en place les plateformes ont également une dimension économique derrière. C'est-à-dire la viralité, le partage, la circulation de l'information, c'est également bénéfique eux pour la viabilité de leur réseau.
De leur plateforme.
Et donc, est-ce qu'il y a de la plateforme ou de leur réseau, est-ce qu'il y a de manière consciente une volonté de soutenir tout ce qui renforce la viralité, la circulation de l'information? C'est un débat qui circule encore. Personnellement, je ne veux pas tomber dans ça, mais je constate simplement que l'Internet n'est que le reflet de la société dans laquelle vous êtes en train de vivre. Une société qui devient de plus en plus violente, qui devient de plus en plus clivante, qui n'est plus ouverte à la contradiction, avec la poussée des extrêmes. Extrême droite, discours extrémiste, discours de haine. L'Internet, ce sera que le reflet, la projection comme miroir de la société dans laquelle nous vivons, qui banalise la violence, qui banalise le discours de haine, qui banalise les discours excessifs, qui prend plaisir à mettre en lumière l'excessif qui est les bonnes choses. Je crois que c'est un problème d'abord de société qui se projette sur Internet et que probablement les algorithmes ont un peu plus appuyé ces problèmes de société-là.
Merci encore une fois, Christian Moleka, pour cette analyse. Hein. Nous cheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais avant de chuter, je vous propose d'écouter un troisième et dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Nous allons cette fois-ci explorer la possibilité de s'exprimer librement sur les réseaux sociaux tout en respectant la loi. On écoute.
Alors, Mbuta Mbuyi, je pense que vous savez pourquoi on vous a convoqué ici. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez réagi au poste du comité des étudiants avec une si grande impolitesse?
Il n'y a pas de quoi s'expliquer.
Non, tu ne vas pas t'expliquer?
Oui. Vous nous convoquez dans ces bureaux uniquement parce que nous avons dit la vérité. Voilà du bamba boulé.
Et puis c'est injuste. C'est inacceptable, Amani. Oh. C'est inacceptable de nous brutaliser au point de déchirer ma chemise. Ma chemise, s'il vous plaît. Juste parce que j'ai exprimé mon point de vue. On est où là?
Quoi? Non, attends. Vous vous obstinez? Non, mon appling avait mis nous qu'on a rambir. Est-ce que vous savez que je peux vous faire subir des sanctions lourdes parce que vous avez osé me manquer du respect en tant que président du comité des étudiants?
Est-ce que mon appling... Tu auras prouvé que vous, avec votre fameux comité, vous formez une nouvelle dictature qui veut absolument enterrer la vérité.
Non, mais... Non.
Et tout est clair. Oui, je vois. Tout est clair que tu veux opprimer des étudiants innocents qui n'ont fait que dénoncer tes décisions injustes, sans mâcher les mots. Je suis désolé. Je constate que la vérité fâche ici.
Mbuyi, s'il vous plaît. Je ne trouve pas que vous êtes quand même allé trop loin dans vos propos en proférant de telles bêtises qui nuisent à l'image d'Amani. Mets-toi à sa place.
N'exagère pas toi aussi.
Mets-toi à sa place. Hein?
N'exagère pas.
Toi, il y a quoi?
Hein? Qu'avons-nous dit de grave à part manifester notre indignation? Je ne vois pas, en fait, ce qu'on a fait.
Est-ce que vous savez différencier le fait de faire valoir sa liberté d'expression en respectant la dignité d'autrui et relayer le propos de haine et dégradant sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous savez faire cette différence-là? Non.
Non, mais alors, écoutez-moi. Oh. Les gars, voici ma décision. Vous devrez être suspendu à l'immédiat pour le propos que vous avez tenu. Vous êtes suspendu. D'ailleurs, cette décision aidera d'autres étudiants qui utilisent les réseaux sociaux à tort de bien distinguer la liberté d'expression ou libertinage d'expression.
Mais non, s'il vous plaît.
Vous êtes suspendu.
Ne me dites pas que vous allez nous suspendre quand même. Non,
ma décision est irrévocable.
Tu aurais dû y penser. Mais tu vois pas que c'est ça.
Tu aurais dû y penser avant, madame. Désolée. Bon. Tout de même, Amani, je pense qu'il faut aussi une réglementation claire pour que nous tous sachions exactement quelle est la limite de ces réseaux sociaux.
Tu veux juste opprimer des étudiants innocents qui n'ont fait que dénoncer tes décisions injustes, affirme l'un des étudiants dans ce dernier sketch. Christian Moleka, peut-on dire que les actions de plus en plus fréquentes de la justice contre des influenceurs accusés d'avoir tenu des propos jugés contraires à la loi constituent une nouvelle manière de réprimer les opinions divergentes ou carrément d'étouffer la liberté d'expression?
Il y a à la fois une volonté de réguler l'espace qui devient un peu une forme de non-mass-land de Congo, où on peut se réveiller du jour au lendemain, porter atteinte à une personne, à sa dignité, à son image, sans responsabilité. C'est chaque jour qu'on voit des gens qui sont postés, les vidéos parfois des dégradantes des personnes qui sont postées, et par les agents publics et par les citoyens. Et donc, il y a une nécessité à un moment donné de mettre l'ordre. Après, Internet reste un espace de grande démocratie et donc un espace de conquête comme l'est le média naturel traditionnel, la presse. Et donc dans une démocratie, il faut également savoir protéger cet espace pour qu'on n'assiste pas à une forme de limitation de la pensée. Comment trouver l'équilibre entre garder l'espace public d'opinion et réguler et mettre de l'ordre? C'est l'équilibre, je dirais, complexe que nous avons dans nos jeunes démocraties entre le respect des lois, mais également le respect de liberté.
Merci, Monsieur Christian Moleka. Mais au-delà des sanctions prévues par la loi, quelles sont, selon vous, les solutions pour prévenir les dérapages sur les plateformes digitales, tout en préservant la liberté d'expression?
pour moi, le grand défi, c'est l'éducation. Il faut un vrai travail d'éducation aux médias. Et malheureusement, au Congo, c'est un travail qui ne se fait pas. Il y a une responsabilité lorsqu'on est en ligne, mais cette responsabilité-là doit être enseignée. Il faut un travail profond d'éducation aux médias, notamment à la jeunesse, parce qu'Internet reste un outil des jeunes qui accèdent à l'outil, mais qui n'ont pas le notice, comme je dis, le mode d'emploi. Et donc, il faut faire un travail d'éducation, notamment aux jeunes, au NTIC, pour qu'ils apprennent l'utiliser comme un espace d'expression, c'est vrai, mais comme un espace démocratique, à transmettre des valeurs démocratiques, à transmettre une forme de citoyenneté, et ne pas rester un espace où chacun va jusqu'aux extrêmes exprimer même les idées les plus incongrues. Il y a un travail d'éducation, donc de sensibilisation à faire, et après un travail de répression, de régulation, qui va accompagner. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Au Congo, nous sommes assez forts quand il faut interdire, quand il faut arrêter, mais nous ne sommes pas très doués quand il s'agit de prévenir, c'est-à-dire sensibiliser, éduquer, pour ne pas tomber uniquement dans les camps de répression.
D'après votre analyse, hein, quelle lecture pédagogique faire des récentes interpellations d'influenceurs par la justice? Certains ont considéré que ces arrestations portaient atteinte à la liberté d'expression. Qu'en pensez-vous?
Les arrestations qui se sont faites déroulement sont parties autour des controverses, hein, des polémiques sous des questions je dirais même discutable. Vous prenez l'affaire Maria Toumba, sa polémique avec le pasteur Walesa, puis avec un journaliste très connu, le Sango. Il y avait à la fois des éléments d'instrumentalisation, des éléments de manipulation, mais également des éléments très discutables en termes de justice. Et d'ailleurs, la manière dont l'affaire s'est conclue, avec une libération sans suite, questionne un peu sous la pertinence de la démarche. Donc il y a ces questions spectaculaires qui sortent de vue, mais il y a d'autres questions qu'on n'évoque pas. Il y a des questions plus profondes, notamment nous on a fait pas nombre de numéros où nous relevons des cas très graves d'usurpation d'identité, des cas de flaming. Mais ça, ce sont des questions qu'on n'aborde pas. Nous attachons à des épiphénomènes, parfois liés à quelques personnalités. Mais les gros des citoyens qui subissent ces fléaux-là n'ont pas le sentiment qu'il y a une dynamique qui est mise en place pour réguler, si ce n'est que de frapper des cas assez individualisés, mais qui n'ont peut-être pas de réel impact dans le fonctionnement d'Internet chez nous. Donc si on veut faire les choses, il faut le faire bien. Il faut pas que ce soit des épiphénomènes autour des personnalités et des questions, des controverses, mais il faut que ce soit une démarche. Une démarche qui s'inscrit dans la durée et qui a pour vocation d'assainir l'espace numérique. Il y a une dimension symbolique parce que au moins, pour la première fois, ils auront entendu parler du code numérique. Ils auront appris qu'il y a un code qui réprimande des cyber-infractions. Peut-être qu'ils s'en intéressaient pas, mais avec la tension médiatique qu'il y a eu autour de l'interpellation de l'influenceuse Maria Toumba liée au code numérique, certainement ont entendu pour la première fois le concept de code numérique. Donc c'est symboliquement important parce que ça pourra pousser certains à s'intéresser à ce que dit le code, quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire, et que ça pourra réduire peut-être probablement certains dérapages dans l'avenir.
Merci encore une fois Christian Moleka pour cette analyse. Hein. Nous voici arrivés au terme de cet épisode de C'est le ton qui fait la panique. Aujourd'hui, nous avons plongé au cœur d'un sujet délicat qui explore le pouvoir de plus en plus croissant des influenceurs et des limites que leur impose notamment la loi ou même la morale, Karine.
Oui, Polly, nous avons vu à quel point l'influence peut être une arme à double tranchant. D'un côté, elle permet de rassembler, de sensibiliser et même de provoquer des changements positifs, mais d'un autre côté, elle peut, lorsqu'elle est mal utilisée, devenir destructrice.
Nous espérons que cet épisode nous a permis de mieux comprendre les limites qui encadrent la liberté d'expression des influenceurs sur Internet. Merci encore à nos invités pour leurs éclairages et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Bénévolencia, en partenariat avec Radio Okapi.
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, vendredi prochain à 8h30. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion samedi à 11h05 et à 19h05 sur Radio Okapi ou à tout moment sur notre site web www.radiookapi.net et sur www.abarirdc.net.
En attendant, n'hésitez pas à partager vos réactions, questions ou commentaires sur nos réseaux sociaux. Merci encore une fois de nous avoir suivis et à très bientôt.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.